pour parler à Philippe-Vincent Foisy. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346, 1-877-CUBE-RADIO.
Cube Radio.
Salut Sophie.
Bonjour Philippe-Vincent, j'ai un scoop pour toi aujourd'hui.
Vas-y.
J'ai appris de sources sûres que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, allait passer la journée avec les fenêtres ouvertes dans son bureau en signe de solidarité avec toutes les écoles au Québec où des enfants vivent dans un froid polaire, sont obligés de porter leur parka, leurs grosses bottes d'hiver, leurs mitaines, leurs tuques, leurs cagoules, leurs bonnets. C'est absolument invraisemblable ce qui se passe quand on regarde la une du Journal de Montréal, Journal de Québec, le froid, le système polaire, ça n'a aucun sens. Et j'ai un deuxième scoop pour toi. Dans tous les cours de français à travers le Québec aujourd'hui, on va faire un exercice aux élèves, on va leur demander de trouver tous les synonymes possibles du mot inacceptable, inadmissible, injuste, insupportable, intolérable, irrecevable, récusable, révoltant. Ça a aucun sens. On passe pour un pays en voie de développement. Comment ça se fait qu'après toutes les mises en garde d'éminents scientifiques, depuis, ça fait 2 ans qu'ils nous disent le aérosol, ventilation, purificateur d'air. Moi, je me mets à la place de ces spécialistes-là. Admettons, tu t'appelles Nima Machouf, puis ça fait 24 mois que tu parles de l'importance de la ventilation. Puis là, tu dis, les enfants sont dans les écoles, puis la seule chose qu'on trouve à leur dire, c'est on va ouvrir la fenêtre parce que le programmateur de CO2 nous dit que le taux est inacceptable dans la classe. C'est quoi cette affaire-là? Comment ça se fait qu'on n'a pas écouté les scientifiques, qu'on n'a pas écouté les spécialistes qui nous disent que ça prend un bon système de ventilation? Comment ça se fait qu'on n'a pas utilisé à bon escient l'été 2021 pour organiser le système scolaire? Alors qu'on savait que la clé, c'était la ventilation. Pas la ventilation en ouvrant les fenêtres quand il fait moins 92 dehors. T'es pas comme choqué. Moi, je trouve cette image-là absolument... Et je pense en particulier, Philippe-Vincent, aux familles pauvres au Québec. T'as des enfants qui vivent dans des logements insalubres où des fois on arrive, les parents ont pas assez d'argent pour payer le chauffage, où il y a des fois du saran wrap à la place des fenêtres. Je le sais, je l'ai vu dans des reportages que j'ai fait dans des cas de pauvreté. Il y a des gens au Québec, des enfants qui grandissent dans des maisons où on ne peut pas se chauffer adéquatement l'hiver. Le seul répit que ces enfants-là ont, c'est de se dire, bon, ben, au moins, quand je vais arriver à l'école, je vais pouvoir me réchauffer, je vais pouvoir... Puis là, on ouvre la fenêtre, puis il fait 13 degrés, puis ils sont là à porter leurs vêtements d'hiver. C'est une aberration, et je ne comprends pas que le gouvernement ait pas vu la lumière. Et là, il y a plein de spécialistes qui disent, bon, ben, on a manqué l'été 2020. On a manqué l'été 2021. Est-ce que cet été 2022, pendant que les élèves seront absents des écoles, est-ce qu'on peut faire un effort collectif et doter toutes les écoles au Québec d'un système de ventilation et de purification de l'air adéquat?
Non, mais c'est parce que ça, au gouvernement, on dit, ben, on a installé des échangeurs d'air là où tous ceux qui nous l'ont demandé l'ont fait. Je me dis, OK, mais toutes les autres là, qui n'ont pas de ventilation mécanique, pourquoi on ne l'a pas fait partout?
Mais non seulement ça, mais on nous dit la solution, c'est on va vous donner des détecteurs de CO2, mais même ça, il y a seulement la moitié des écoles au Québec qui ont des détecteurs de CO2. Fait que de toute façon, les solutions qu'on propose n'ont aucun sens. C'est comme les tests rapides. On dit, bon, à partir d'aujourd'hui, il va y avoir des tests rapides pour les élèves.
Ben,
au secondaire, il faut dire que les chiffres de vaccination sont quand même excellents. Et moi, je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai vu les chiffres de vaccination pour les élèves du secondaire. 98% ont eu leur première dose. Attends, 98%, c'est hallucinant. Bon, 90% ont eu leur deuxième, mais il reste que la solution, c'est on leur dit pas, on vous donne des kits de tests rapides, vous les emmenez à la maison et mettons si un samedi, un dimanche, un soir, vous avez des symptômes, vous testez. Non, c'est seulement s'ils développent des symptômes à l'école Donc, ils peuvent même pas les apporter à la maison.
Non, non, mais tu sais, soyons honnêtes, là, je veux dire, dans les garderies aussi, là, c'est pas réglé. Là. Il y a des garderies, j'ai reçu un courriel, moi, on me disait, oh, on a quelques tests, là, on va pouvoir en donner à quelques parents dont l'enfant a des symptômes. Je veux dire, les garderies, il me semble, ça fait un mois qu'on nous dit qu'ils vont avoir des tests en priorité. Là.
Non, mais non seulement ça, mais Philippe Vincent, écoute, quand on regarde dans d'autres pays, je sais que des fois, il faut pas comparer, on peut pas comparer, par exemple, notre système de santé avec le système de santé ailleurs. Mais je reviens à cette entrevue que j'ai faite avec ce Québécois qui est installé maintenant en Suisse, où il est responsable dans le canton de Vaud, qui est responsable donc de la lutte à la COVID, et qui m'a dit en entrevue à Cube que ça fait plus de 6 mois maintenant en Suisse qu'on a envoyé aux gens par la poste des tests rapides et que de toute façon maintenant tu peux t'en procurer à l'épicerie, tu peux en procurer à la pharmacie et que c'est rentré dans les mœurs. Tu te dis, bon, on va aller souper chez grand-maman ce soir, toute la famille se teste, fait un test rapide et grand-maman se teste aussi et les gens se voient parce que les tests rapides sont courants, font partie de la vie de tous les jours. Ici, c'est quand t'as un test rapide, tu le mets dans ton coffre-fort ou ton coffret de sûreté à la banque parce que c'est l'affaire la plus précieuse. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas vu venir? C'est que je comprends qu'on soit démunis des choses qu'on ne pouvait pas prévoir, mais venez pas me dire que la ventilation, on ne le savait pas. Venez pas me dire que les tests rapides, on le savait pas. Venez pas me dire que les masques 95, on le savait pas. Venez pas me dire que toutes ces mesures-là, on ne le savait pas. On le sait, puis on est en retard par rapport à d'autres endroits à travers le monde. C'est ça qui est frustrant.
Ouais, puis l'Hydro-Québec qui demande à tout le monde de baisser sa consommation aujourd'hui. Donc, partez le chauffage, ouvrez les fenêtres. Hydro-Québec est d'accord avec vous. Sophie, je te souhaite une bonne fin de semaine.
Puis on souhaite bonne chance à Jean-François Roberge, hein, parce que par solidarité, là, ça lui a fait fret dans son bureau. Mais c'est vraiment solidaire du peuple québécois. On l'apprécie beaucoup. Merci, Monsieur Roberge.
Un beau manteau d'hiver à tous les enfants du Québec, ça pourrait être une bonne idée aussi avec un masque intégré. On y pense, là, on pourrait envoyer les commandes à Quartz, à Canada Goose et autres compagnies canadiennes et québécoises. Salut, Sophie.
Merci, à lundi.
Alors, Richard, juste avant de parler, on vient d'apprendre qu'il y a une femme en situation d'itinérance, une deuxième qui est morte en 10 jours à cause du froid hier.
Ah, ouais.
Ça vient tout juste de sortir, là, parce qu'il y a encore des problèmes avec les refuges, l'acceptance, le fait d'accepter certains itinérants qui veulent pas nécessairement aller partout. Donc, une autre qui est décédée. On va avoir des détails tantôt, là. J'en ai pas pour le moment, là.
Il y a aussi des itinérants qui veulent rien savoir des refuges, même s'il y en a, ils sont récalcitrants, faut aller les chercher. Il y a beaucoup de gens avec des problèmes
de santé mentale, de consommation. Il y a des refuges qui sont secs, il y a des refuges aussi où, à cause de la COVID, on peut pas rentrer. Il y a des refuges qui sont pas là où les itinérants sont. Valérie Plante va faire le point à midi, mais donc une deuxième en 10 jours.
Écoute, est-ce que tu es d'accord avec Thomas Mulcair qui dit que la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Gastonguay, qui a outremandé les limites de son mandat en disant on n'a pas besoin de commission d'enquête. Il dit là, elle fait de la politique, puis c'est pas son mandat, puis c'est pas sa mission de faire de la politique. Es-tu d'accord avec ça?
La question de la commission d'enquête, je la trouve intéressante dans la mesure où qu'est-ce qu'on demande exactement? Puis tous ceux qui veulent une commission d'enquête, là, à part peut-être José Boileau ce matin dans le journal, là, où là c'est assez clair ce qu'elle demande, mais c'est quoi? On veut une commission d'enquête publique sur la première vague, sur les CHSLD, sur la gestion de la pandémie, sur la santé publique, sur la... Soyons clairs, peut-être qu'il y a des arguments à amener là, à un moment donné, puis aussi savoir c'est qui est responsable. Puisqu'on est en échec collectif. Bon, il n'y a personne qui est responsable. Merci, on continue.
Ben oui, on sait commencer. Même si c'est une commission d'enquête, il n'y a jamais personne de responsable. Ben, souviens-toi le cafouillage de l'autoroute pendant l'hiver. Là, c'était l'autoroute
la 13, la fermeture de la 13 avec le déneigement.
Des ministres du transport qui étaient pas là, etc. Tout à fait. Mais écoute, elle vient de planter le dernier clou dans ce cercueil-là. Maintenant, il y a le beau jeu, le premier ministre en disant, regarde, la commissaire Gastonguay l'a dit elle-même, on n'a pas besoin de commission d'enquête.
Ouais. On verra ce que la coroner va dire. Okay. Moi, je pense que la coroner va peut-être ouvrir ce débat-là. Richard, bonne émission.
Merci,
bonne fin de semaine. Merci à toute l'équipe, à Rémi, à Maude. On se retrouve lundi matin.